Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat.
Bonjour, bienvenue, nous sommes ensemble pour une heure et nous allons démêler, analyser trois sujets majeurs sélectionnés dans l'actualité africaine de cette semaine. Et ce sera avec vous, Francis Laloupo, bonjour.
Bonjour Liliane Niacha, j'espère que vous allez bien, mes amitiés à toute l'équipe de BBC Afrique à Dakar.
Merci Francis Laloupo qui a une très mauvaise nouvelle à nous annoncer en fin d'émission.
C'est une belle nouvelle, ne dites pas ça à Liliane.
Du tout, une mauvaise nouvelle pour nous et tous nos auditeurs, monsieur Laloupo.
Gardez nos auditeurs jusqu'à la fin.
Tout à fait. L'opposition béninoise discute avec le pouvoir pour tenter de trouver une solution à la crise née de ce qu'elle appelle son exclusion des dernières législatives. Après le président Patrice Talon lundi, les deux camps se sont mis d'accord avec le ministre de l'Intérieur sur les documents à fournir pour la régularisation administrative de leur parti politique, objet de la discorde. Mais toute l'opposition ne partage pas cette démarche. Alors sortira-t-elle affaiblie ou plutôt renforcée de ces rencontres? S'achemine-t-on définitivement vers la fin de la tension post-électorale au Bénin? Analyse tout à l'heure. Autre sujet à décrypter, l'entrée de la Suisse dans la recherche des solutions à la crise anglophone au Cameroun. Le secrétaire général de l'ONU dit soutenir totalement l'initiative de la République helvétique. Des rencontres préparatoires ont commencé en vue de trouver une issue pacifique et durable à ce conflit qui touche 2 des 10 régions du Cameroun depuis 2016. La facilitation de la Suisse, pays où le président Biya passe beaucoup de temps, sera-t-elle réellement acceptée par tous les acteurs de la crise? Nos invités répondront. Vous aurez aussi, et enfin messieurs, à commenter cette décision de l'Organisation mondiale de la santé qui a déclaré Ebola en RDC, urgence de santé publique de portée internationale, après le décès du premier cas à Goma, troisième plus grande ville de la RDC. L'épidémie de fièvre hémorragique, la 10e qui frappe le pays, a déjà fait en près d'un an environ 1700 morts. Cette mesure va-t-elle aider à contenir la maladie, à réduire la propagation du virus et éviter la fièvre mondiale? Rendez-vous dans quelques instants. À vous Francis Laloupo pour nos invités.
Oui, notre grand témoin invité dans cette édition au téléphone depuis Cotonou au Bénin, Candide Azanahi, ancien député à l'Assemblée nationale du Bénin, ancien ministre de l'Industrie, porte-parole du gouvernement et ancien ministre de la Défense du Bénin, président du parti Resterez l'Espoir. Candide Azanahi, monsieur le président, bonjour.
Bonjour monsieur Laloupo.
Merci d'être avec nous et notre confrère invité dans cette édition au téléphone depuis Yaoundé, Denis Kouébo, journaliste au quotidien Le Jour, qui nous a peut-être rejoint, pas encore Liliane.
Je ne sais pas, il est bon, là Francis Laloupo, on me confirme qu'il est avec nous.
En tout cas, Denis Kouébo, bonjour.
Bonjour Francis, bonjour à votre invité.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Petite fiche, monsieur Kouébo.
Brève présentation de notre grand témoin Candide Azanahi, militant et leader de mouvement de la jeunesse pendant la période de la dictature militaro-marxiste que le Bénin a connue, de 1972 à 90. Vous avez fait partie des délégués à la Conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990. Depuis, vous avez été plusieurs fois élu député pour 5 mandats, au cours desquels vous avez assuré la charge de président de groupe parlementaire. Ancien juge à la Haute Cour de justice, vous avez été ministre de l'Industrie, porte-parole du gouvernement, sous la présidence du président Thomas Boni-Yayi, qui a dirigé le pays de 2006 à 2016. Vous apporterez votre soutien à l'actuel chef de l'État, Patrice Talon, dont vous avez été le ministre de la Défense avant d'en devenir un opposant déterminé. Détenteur de la médaille de commandeur de l'Ordre national du Bénin, vous êtes le fondateur et président du parti Restaurer l'Espoir, en sigle RE. Candide Azanahi, vous serez donc notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. À vous Liliane, premier sujet, le Bénin forcément.
Oui. Forcément, vous l'avez dit, Francis Laloupo, et le choix de la majorité de la plupart des partis d'opposition béninoise de répondre favorablement à l'invitation aux discussions du président Patrice Talon ne fait pas l'unanimité dans ses rangs. En tout cas, une dizaine d'entre eux ont accepté de rencontrer le président de la République, puis le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Saka Lafia a reçu 4 formations jeudi et d'autres vendredi. Et avec les premiers partis d'opposition, voici ce qui a été convenu dans ce sujet de Rachida Ousou, correspondante de BBC Afrique à Cotonou.
La formation politique de l'ancien président Boni Yayi est appelée à organiser de nouvelles assises afin d'effectuer quelques modifications. C'est la seule nouvelle remarque notifiée ce matin selon Nourinou Atchadé, le porte-parole de la FCBE.
Nous n'avons plus de papier à ajouter à ce qu'on avait là-bas. Le ministère va faire ce qui le concerne et cette fois-ci, ils disent qu'ils sont disposés à aller vite.
Quelles sont les nouvelles formalités que vous devez remplir ?
Faire un mini-congrès ou un congrès extraordinaire et rendre les décisions. C'est tout.
Si l'ancien parti au pouvoir a toujours en vue la reprise des législatives, le parti UDBN, proche de la mouvance, a le regard tourné vers les prochaines échéances électorales. Après les échanges avec le ministre de l'Intérieur, l'un de ses représentants évoque les observations faites à l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, Gildas Aizanon.
Des détails liés à une certaine pièce, certains actes ne sont pas bien lisibles, mais ils ne relèvent pas en réalité de la responsabilité des partis politiques. Nous autres, nous estimions que ces détails ne pouvaient pas fonder la non-délivrance des certificats de conformité.
Et ces pièces, vous les complétez quand?
D'ici lundi ou plus tard, nous allons faire le retour au ministère de l'Intérieur qui appréciera et devra en principe nous remettre notre certificat de conformité.
Les 5 autres formations politiques devront reprendre la procédure depuis le début si elles veulent être considérées comme parti politique au Bénin. Rachida Oussou, BBC Afrique, Cotonou.
Voilà, première question avec vous, monsieur Candide Azanaï. Vous êtes l'un des rares de l'opposition à avoir décliné l'invitation des autorités aux discussions. Vous vous en êtes expliqué sur BBC Afrique cette semaine en affirmant que vous connaissez bien le président Talon, un rusé, un dictateur, dites-vous. Vous affirmez aussi qu'il va rouler tout le monde dans la farine. Pourquoi vous le dites et est-ce qu'on ne peut pas penser que vous êtes un peu dans l'exagération, une attitude souvent caractéristique des transfuges et des opposants reconvertis?
Non, écoutez, madame, bonjour. Je voudrais profiter de l'occasion de saluer tous ceux qui participent à cet échange, à ce débat, et saluer tous ceux qui sont connectés, qui sont très, très abonnés et très friands de votre station et des stations alliées. Alors, j'en viens à votre question. Vous savez, et c'est les faits qui parlent. C'est les faits qui parlent. D'abord, ceux qui sont sortis de cette réunion, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils vous ont parlé d'un document qu'ils appellent certificat de conformité. Mais madame, ce document, c'est de la pacotille. Ça n'existe pas. Ce document, je connais Patrice Talon. Ce n'est pas une affaire de ci ou de ça. Ce document, madame, prouvez, demandez à Patrice Talon, à tout le gouvernement, à tous les acteurs politiques, s'il existe un document qui s'appelle certificat de conformité, et dans la loi portant charte des partis politiques, et dans la loi portant code électoral. Ça n'hésite pas. Deuxièmement, le code électoral a été convoqué sur la base de la loi portant charte des partis politiques, promulguée le 17 septembre, et puis sur la base du code électoral, également promulgué un peu avant, en tout cas dans la même période. Et le 9 janvier, au moment où le code électoral était convoqué, personne n'a évoqué un document qui s'appelle certificat de conformité. Le 22 janvier, madame, la Sénat, structure chargée d'organiser les élections au Bénin, au terme de la loi, a sorti un calendrier. Dès que le décret est sorti le 9 janvier et que la Sénat sort un calendrier sur la base de ce décret et des deux lois, le 22 janvier, le processus est définitivement lancé. Il ne peut plus y avoir une pièce qu'on invente et qu'on impose. Voilà le schéma. Donc, nous connaissons, je connais, tout le monde connaît parfaitement que sur le terrain, Patrice Talon a perdu toute la popularité. Il ne pèse plus rien et il le sait. D'accord. Et sa doctrine est connue de tout le monde, madame. Une minute, sa doctrine est connue. Moi, j'utilise les faits de l'adversaire et les faits qui sont tombés dans le domaine de l'opinion. Je ne produis pas des faits. Je ne produis pas. J'analyse.
Oui,
Patrice Talon a dit, il a dit lui-même que lorsqu'on soumet les députés, les grands électeurs, les maires et tout le monde, lorsqu'on détruit tout le monde, les hommes d'affaires, tout le monde, lorsqu'on n'a plus de compétiteurs, on a beau être mauvais, on est réélu. À partir de là, il est dans le schéma d'exclusion.
Oui, madame. Oui, monsieur Azanaï, vous dites que, oui, il est dans le schéma d'exclusion. Je suis désolée, on ne va plus refaire un peu l'historique de ces élections législatives. En tout cas, elles se sont tenues dans les conditions que vous et moi savons, sans l'opposition, qui accepte aujourd'hui de discuter de ce certificat de conformité que vous contestez. Comment appréciez-vous la démarche de l'opposition aujourd'hui de dire oui, nous avons été exclus du processus, mais nous allons quand même essayer de fournir tous les documents nécessaires et demandés par le nouveau code électoral?
Oui, madame, moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Le document qu'on appelle certificat de conformité n'existe pas. Deuxièmement, ce n'est pas un dialogue qui est ouvert avec Patrice Talon. Patrice Talon a dans son schéma quelque chose qu'il veut imposer. Je le connais. Il a perdu trois choses, il est à la recherche de trois choses. Et il attend ces choses-là pour engager d'autres choses qui seront plus cruelles à la liberté, à l'état de droit, à la démocratie.
Quelles sont ces trois choses?
Je vais vous le dire, hein, mais en attendant, je réponds en détail à votre question. Les gens qui sont partis, ils sont libres. Moi, je n'aime pas critiquer des partenaires, des alliés ou des gens. C'est pas responsable. Mais les faits disent quoi? Ils sont partis au palais. Qu'est-ce qu'on leur a dit? On leur a dit, c'est fini. Vous détruisez vos partis, vous faites de nouvelles réunions, et puis si, ne parlez plus de certificat de conformité. Pourquoi? Parce que Talon est conscient que le certificat de conformité a été produit pour éliminer. Et c'est le premier, c'est la décision DCC 19, DCC EL 19-001 du 1er février 2001. Et oh, madame, la quatrième décision, le quatrième tiré de la décision 19-001, le certificat de conformité est indexé au dépôt de dossier de candidature législative. Donc, dès qu'on a clôturé le dépôt de dossier de candidature, le certificat de conformité devient désuet.
Merci, vous l'avez dit,
voilà.
Francis.
Donc, voilà.
Merci.
Maintenant, eux, lorsqu'ils sont partis, ils sont partis faire quoi? Rien du tout. Le président leur a dit, s'ils sont en l'air, ils vont vous le dire, il leur a dit, on ne discute de rien du tout. Moi, il n'y a eu aucun problème dans le pays. Je reconnais que vous avez des choses là. Il y a deux lois qu'on va réviser. La loi portant charte des partis politiques et la loi portant code électoral.
Merci.
Et dans le même temps, il dit, allez faire un autre congrès. Vous n'avez pas besoin de faire des congrès. Vous restez dans une chambre et vous faites des procès-verbaux, vous amenez. C'est de la connerie. C'est de la tricherie.
Candidat Janaï.
On veut réviser une loi. Monsieur Lalouko, une minute. Vous savez que deux lois sont mauvaises, incongrues, inappropriées, qui ne répondent à aucune des caractéristiques de la loi ou des lois. Et puis vous dites que ces lois sont mauvaises, on va les réviser. Et maintenant, vous dites, vous demandez aux gens d'aller se conformer à ces lois, sachant pertinemment que rien ne s'appelle ce cas de conformité, que le secrétaire de conformité est désuet dès lors qu'on a clôturé le dossier.
Merci.
Et puis, s'agissant de mon parti, Parti Restaurer l'Espoir.
Pour terminer, M. Azanaï, s'il vous plaît.
Oui, oui, je vous écoute, madame.
Pour terminer, parce qu'il faut bien qu'on vous pose des questions.
Oui, que ce ne soit pas un monologue.
Candidat Azanaï, il y a une partie de l'opposition qui a posé plusieurs conditions préalables à la tenue d'un dialogue avec le pouvoir. D'abord, je pense qu'il y a deux faits, d'abord, deux observations. D'abord, est-ce qu'on peut parler de dialogue dès lors que c'est le chef de l'État qui en fixe l'ordre du jour? Et deuxième question, que pouvaient attendre de cette rencontre ceux de l'opposition qui ont décidé d'y aller?
D'abord, vous posez une question très très brillante et puis vous abordez un angle qui est l'angle rationnel. Peut-on parler d'un dialogue? Il y a une différence entre discours et dialogue. Il y a une différence entre discours et dialogue. Parce que Talon fait un discours. Son discours à lui, terminé. Le dialogue, comme le dit l'étymologie, le dialogue, c'est le dialogue. Le dialogue, on traverse. Le dialogue est différent. Le dialogue, regardez un peu ce qui se passe au Burkina Faso. C'est un schéma de dialogue. Même au Cameroun, c'est un schéma de dialogue.
Alors que pouvaient attendre ceux qui sont partis, ceux de l'opposition qui sont partis? Parce que aujourd'hui, vous savez que l'opinion est un peu troublée. Il y a depuis quelques jours une sorte de décalage entre la population qui a manifesté contre ce pouvoir et cette opposition qui avance désormais en rang dispersé face à ce pouvoir.
Bon, moi je ne veux pas conclure que l'opposition va en rang dispersé. Moi, l'opposition s'est réunie, je n'ai trahi aucun secret en disant qu'on s'est réunis, et que la position de l'opposition, c'est celle que moi je suis. Maintenant, des gens ont eu des démarches individuelles pour aller tester quelque chose.
Individuelles, est-ce qu'ils étaient mandatés par leur parti ou pas pour y aller?
Ah, moi, je ne suis pas dans leur parti, mais moi, j'ai fait des réunions, quatre ou trois réunions avec ces personnes ou la tendance générale. Et puis, je cache aucun secret. Cette réunion a été présidée par le président Dieudonné Soglo, oui. L'ancien président, qui est la figure symbole, la figure de l'opposition, et puis qui a sorti et signé la déclaration commune au nom de tout le monde.
Mais ceux qui sont partis, ils sont partis, je dirais, à titre personnel ou mandatés par leur parti.
Ceux qui sont partis ont dit, nos bureaux politiques nous ont demandé d'aller parce qu'on a parlé de dialogue. Mais nous, on leur a dit, mais ce n'est pas un dialogue. C'est un discours du président qui va s'imposer à vous. Un dialogue, on pose les cadres de dialogue. Un dialogue, ce n'est pas la domination d'un discours sur le discours. Un dialogue, ce n'est pas je viens, je sors avec mes idées. Un dialogue, nous sommes d'accord qu'il y a un mal qui existe. Mmh. Et le dialogue, c'est la volonté de partir du mal pour aller à ce qui est contre le mal et qui arrange tout le monde à la solution. Et on ne part pas au dialogue en disant mes prétentions vont être la solution, la conclusion du dialogue. Un dialogue, on cède. On cède pour le bien. Et on s'engage au départ, on connaît le cadre, on connaît le format, on connaît le cahier de charge, on connaît les référentiels.
Alors vous ne voulez pas critiquer, vous ne voulez pas critiquer ceux qui sont allés à cette rencontre, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de... Oui. Il semble que le seul... Oui, attendez, Candide Azanaï. Il semble que le seul élément qui sort de cette rencontre, c'est une fois de plus la question de cette cas de conformité. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de troublant aujourd'hui que ceux qui ont critiqué encore il y a quelques jours des dispositions liberticides en parlant de cette cas de conformité, aujourd'hui, finalement, se plient à nouveau, je dirais, à cette demande du pouvoir à cet élément que le pouvoir continue d'imposer, en fait, à ses partis pour reconnaître leur existence?
Vous savez, moi, je suis sur le terrain, j'ai plus de 40 ans d'activité politique. J'ai passé toute ma vie dedans, je connais toute la classe politique. Quand Patrice Talon sourit, je sais ce qu'il veut faire. Quand il fait des rictus, je sais ce qu'il fait. C'est du pipeau, il leur vend de la pacotille. Il leur vend, il leur dit, Patrice Talon veut retrouver une légitimité qu'il a perdue. Il veut retrouver une image. Et il veut distraire et gagner du temps.
Pour et l'opposition, selon vous, en allant à ce dialogue, l'aide à acquérir cette légitimité et légitime de ce fait les élections législatives contestées?
Oui.
Vous savez ce que je veux vous dire, madame. Il y a eu des morts. Il n'y a pas eu simplement des morts. Avant qu'il y ait des morts, on a dit à Patrice Talon, ne fais pas comme ça. Le 19 janvier, le 19 février, ne fais pas comme ça. Le 6 mars, ne fais pas comme ça.
Monsieur Zanaï, rapidement pour répondre à ma question.
Mais vous ne répondez pas à la question de Liliane, s'il vous plaît.
Voilà. La participation à ce dialogue légitime, telle, selon vous, les législatives contestées et considérez-vous que ces morts dont vous parlez sont donc passés par perte et profit?
Mais si jamais les gens s'engagent dans ce schéma, c'est que les gens sont morts inutilement. C'est que nous entrons de plein pied dans ce que je redoute, qui est une dictature despotique et mafieuse. C'est que je pèse mes mots, je les assume. Je dis non, moi je n'irai pas. Et d'abord, tous ceux qui sont partis ont commencé par dire que nous sommes déçus. Nous sommes déçus. Personne au retour, en tout cas, il faut faire aussi attention de la ruse de Patrice Talon. Il invite des forces de l'opposition et les forces de sa mouvance et d'autres forces qu'il a créées. Parce que je ne peux pas dire qu'il a créé, qui sont créées nouvellement. Alors, c'est un foutu, c'est fariné. On comprend la méthode, puisque quand il est parti, quand ses émissaires sont allés vers les chefs d'État, certains chefs d'État de la sous-région, certains sont des démocrates, mais vous connaissez le profil essentiellement, l'ADN dictatorial de beaucoup de chefs d'État de la sous-région. Je ne veux pas les nommer pour des raisons que vous savez. On leur a dit, mais écoutez, monsieur, on ne vole pas tous les sièges d'un Parlement. On laisse, on crée sa propre opposition, qu'on gère, qu'on finance. Et c'est ça qui veut se passer.
Merci. On va marquer une pause.
Merci.
Le débat. BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat.
Avec notre grand témoin invité depuis Cotonou au téléphone, Candide Azanaï, ancien député à l'Assemblée nationale du Bénin, président du parti Restaurer l'Espoir, ancien ministre également du Bénin, notre confrère invité en cette édition au téléphone depuis Yaoundé, Denis Kouébo, journaliste au quotidien Le Jour, à qui nous allons demander un premier commentaire sur cette affaire béninoise, ce dossier béninois, Denis Kouébo.
nous constatons avec beaucoup d'autres Africains qu'une élection a été organisée au Bénin, que le pouvoir en place a opéré un passage en force en décidant de créer une nouvelle loi sur les partis politiques avec effet rétroactif. C'est quand même chose curieuse. Beaucoup de partis, les partis politiques de l'opposition, les principaux, ne sont pas allés à l'élection. Et après l'élection, c'est ce que Talon voulait. Il parle de dialogue. Je crois qu'on devrait quand même s'interroger sur cette forme de dialogue qui intervient après un passage en force, alors que...
Mais pourquoi l'opposition, Denis, a-t-elle accepté donc d'y aller ?
Une partie de l'opposition.
Une partie de l'opposition a-t-elle accepté d'y aller alors qu'elle était vent debout contre cette élection législative qui, selon elle, l'avait exclue ?
Quand j'ai commencé à être reporter, j'ai débuté comme reporter politique, nous avons appris tous qu'il n'y a pas un parti politique qu'on appelle l'opposition. L'opposition, c'est monsieur tout le monde. C'est des gens qui sont soit des oripeaux du pouvoir, des gens qui sont en préposition pour entrer dans le pouvoir et des gens qui sont en position de rente. Donc, c'est tout le monde qui est... Chaque fois quand vous entendez parler de l'opposition en Afrique, ça ne renvoie à rien. L'opposition, c'est
ce n'est pas un bloc
pas
homogène, c'est constitué de plusieurs personnes, plusieurs idéologies et intérêts singuliers.
Vous avez présenté votre invité comme étant quelqu'un qui a fréquenté les cercles marxistes. Quand vous êtes marxiste, vous n'avez rien à voir avec les libéraux. Et M. Talon, par exemple, c'est un libéral endurci.
On n'a pas dit que Kanida Azanayi a fréquenté les cercles marxistes. Hein. On n'a pas dit ça, je crois. Non, on n'a pas,
pas dit.
Il avait combattu le régime militarement marxiste en son temps.
Ah, ok. Non, mais quand on est libéral comme Talon, on fait avec les libéraux, même si on est ces libéraux-là se trouvaient être dans ce que vous appelez l'opposition. De toutes les façons, c'est quand même curieux que alors que tout le monde voulait qu'il y ait un dialogue inclusif, qu'il y ait un dialogue politique pour apaiser les esprits, pour apaiser toutes les forces sociales au Bénin avant l'élection. M. Talon est passé en force et juste après l'élection, il va à ce qu'il appelle dialogue. Ça n'a pas l'air, de mon point de vue, d'un dialogue parce que ce dialogue, s'il devait exister, visait justement à créer un consensus pour que les élections ne servent pas beaucoup plus à diviser les Béninois qu'à les mettre ensemble.
Merci.
Donc, quelle que soit l'issue de ce qu'on appelle dialogue, on a une assemblée monocolore et nous étions dans une démocratie au Bénin et un des instruments, le baromètre de la démocratie, c'est consiste à ne pas voir les personnes qui soutiennent le président de la République être représenté dans le
Merci
Parlement.
Denis.
Ce n'est pas bon pour le Bénin, qui a été très avancé par rapport aux autres pays en Afrique.
Merci Denis. Candide Azanayi, une question qui se pose beaucoup au sein de l'opinion aujourd'hui, je vais vous la poser, j'espère qu'elle ne va pas vous embarrasser. Et cette incapacité de l'opposition à observer une conduite commune face au pouvoir, est-ce que ce comportement n'est pas révélateur des compromissions de certains acteurs de l'opposition béninoise avec ce même pouvoir qu'elle disait combattre?
Je vais vous répondre franchement. Franchement, c'est quoi? C'est que nous n'avons jamais vu depuis 1960 un pouvoir, un président ordonner, tirer un gouvernement, tirer sur le peuple. Nous n'avons jamais vu. Il faut reconnaître que nous sommes tous, moi malgré tout mon petit parcours, on était tous inquiets, hébétés, surpris, il faut l'avouer. C'est étonnant, c'est ahurissant, c'est inadmissible. Et ce n'est pas une fois. Notamment, on a tiré et tué, en plein jour, on a tiré et tué, et on a continué, et aujourd'hui, c'est la terreur. Mais là, c'est un problème, d'abord. Deuxièmement, vous savez, il y a des gens qui ont rattrapé la politique et qui ne connaissent pas les prérequis de la matière politique. C'est comme si on prenait des transformateurs, des menuisiers,
pour aller dans la salle de chirurgie parce qu'il s'appelle bien agencer les poules.
Je vous pose la question autrement, Candidat Zanaï, je vais peut-être être beaucoup plus direct. Il y a un certain nombre d'acteurs politiques aujourd'hui dans ce pays qui se sont compromis à un moment donné dans l'histoire de ce pays au cours des dernières années avec l'homme d'affaires Patrice Talon. Est-ce que ceux-là ne sont pas aujourd'hui embarrassés dans l'opposition? Est-ce que ce n'est pas, je dirais, ce ne sont pas ces compromissions qui empêchent aujourd'hui l'opposition d'avancer, je dirais, comme un seul homme face à ce pouvoir et d'avoir une conduite commune?
Je souris beaucoup parce que mais on dirait que vous êtes un devin. Il y en a, je ne dis pas que ceux qui sont avec nous sont comme ça, mais je parle d'un thème souvent à Cotonou ici, c'est la vénalité, la trop grande vénalité, le taux de la sensibilité facile à la corruption, la faiblesse devant la compromission qui crée ces désordres. Mais je vous dis, ce n'est pas le cas de l'opposition, de toute l'opposition.
Donc vous considérez que certains membres de l'opposition auraient été corrompus pour accepter d'aller à ce dialogue?
Je ne veux pas mettre ça sous le coup de ça. Vous comprenez ma position. Je ne peux pas, je suis un rassembleur, je ne peux pas mettre sous le coup de ça. Mais je mets un peu sous le coup un peu de la méconnaissance du sujet et de l'acteur et des faits. Parce que les faits doivent être analysés. Ici, au Bénin, il y a la torpeur, la peur. Et puis il y a le désespoir pour certains qui ne connaissent pas la matière, parce qu'ils se laissent fariner. Il y a des gens à qui on a proposé déjà des postes, des ci, des ça. Comme l'a dit M. Francis Laloupo, que je respecte beaucoup. Mais c'est ça. Non. Ici, c'est l'agenda de chacun qu'il faut arrimer.
Et parlant d'agenda, M. Azanaï, en deux mots, dites-nous, quel est d'après vous l'agenda du président de la République, puisque vous affirmez qu'il est rusé? Qu'est-ce qu'il entend faire justement? Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire en organisant, disons, ce qu'on appelle le dialogue ou si vous voulez des rencontres? Et qu'est-ce qu'il va faire ensuite?
Je vais vous dire quelque chose. Il ne fera rien. Parce que Talon, à son discours, il va imposer, il va dérouler. Il a utilisé la force, ça lui a marché. Il a tué, ça lui a marché. Personne n'a rien dit. Il s'est trouvé même des chefs d'État, un chef d'État de la ou certains chefs d'État de la sous-région qui le cautionne.
Vous pensez à Alassane Ouattara, par exemple?
Non, mais je ne dis pas. Et puis, il y a aussi, vous voyez le communiqué de la CEDEAO, 55e sommet. Parce que Talon était assis lorsque la CEDEAO a désavoué et dit qu'il y a crise, qu'il y a violence, et qui dit qu'il faut régler. Donc, s'il y a la quête de légitimité, et si les gens, j'ai l'habitude de dire quelque chose, hein, beaucoup, je ne veux pas les critiquer, parce que il y a Bertrand Roussel qui dit, si vous acquiescez par désespoir, vous allez permettre que les prévisions désespérées se réalisent.
Quelles
prévisions désespérées? Je vais vous expliquer, madame, une minute.
S'il vous plaît, on n'a plus le temps, monsieur. Excusez-moi, monsieur Azana, on n'a plus le temps. Je voulais vous demander la question principale. L'opposition va-t-elle sortir renforcée ou plutôt affaiblie de ses discussions avec le pouvoir? Et ces rencontres, est-ce que selon vous, c'est la fin de la crise post-électorale?
Madame, retenez une fois pour toutes qu'il n'y a pas de discussion au Bénin. Il n'y a pas de dialogue au Bénin.
D'accord. Ces rencontres, comment l'opposition, voilà, quelle sera... Oui, parlons donc de rencontres.
Ces rencontres, moi je ne sais pas, ces rencontres ne donneront rien du tout, absolument rien. Ça permettra, si des forces ne se reprennent pas rapidement, ça permettra à Patrice Talon d'engager rapidement la révision de la Constitution et le vol de la suite, puisque nous sommes à quelques mois des élections municipales et nous sommes à moins de 2 ans des élections présidentielles. Et puis nous avons un Parlement dont les 83 députés sont les 83 désignés et imposés par le pouvoir. C'est une démocratie, ça. Et vous voyez, et puis il y a enfin, madame, tout le monde le sait, vous êtes des gens de culture. On ne discute pas avec un dictateur sur les principes et sur les valeurs.
Pour vous, donc, malgré ces rencontres, la crise post-électorale demeure
intacte. Et vous savez, elle est intacte. Nous suivons, nous nous organisons. On a été surpris, on n'a pas les moyens, on s'organise. On n'est pas des casse-cou. On s'organise. Parce qu'on ne peut pas tuer et passer par perte et profit. Les militaires qui ont tué. Moi, j'ai eu la chance de diriger l'armée. Je connais la psychologie des âmes de l'armée. Je sais que l'armée n'est pas d'accord. Mais il y a quelques officiers qui sont en quête de promotion, qui ont la cachette facile, et qu'on dit tuer ici. Ça ne peut pas se passer. C'est en violation des principes de base de la Havane de 90 des Nations Unies. C'est en violation même du décret organisant les médias de paix ici. C'est grave. Tout est intact. On ne va pas démordre.
Merci.
Merci.
Démontre pas.
Merci, Kaïda. On a bien compris.
BBC Afrique, Africa Radio.
Avec notre grand témoin invité depuis Cotonou au téléphone, Kanida Zanaï, président du parti Restaurer l'Espoir, ancien député, ancien ministre du Bénin, et notre confrère invité depuis Yaoundé au téléphone, Denis Kouébo, journaliste au quotidien. Le jour, on va justement mettre le cap sur le Cameroun avec l'implication annoncée de la Suisse dans la crise dite anglophone. Pourquoi donc le gouvernement fédéral helvétique a-t-il décidé de s'impliquer en tant que facilitateur dans un processus de dialogue en vue de résoudre la crise dite anglophone qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, alors que cette initiative est saluée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et de même que les États-Unis. L'affaire suscite de nombreuses interrogations au Cameroun, et en même temps que la démarche de la Suisse est positivement appréciée dans les cercles du pouvoir, certains acteurs politiques camerounais dénoncent l'ingérence helvétique dans une crise qu'il appartient, selon eux, aux seuls Camerounais de résoudre avec la juste solution. Quels sont donc les véritables ressorts de l'irruption de la diplomatie suisse, dont on connaît la légendaire discrétion dans ce dossier camerounais? Première question pour vous, bien sûr, Denis Kouébo. De quels atouts diplomatiques particuliers dispose la Suisse pour engager ce processus de dialogue et espérer dénouer la crise dite anglophone dans votre pays?
Bon, disons que contrairement à beaucoup d'autres pays, les pays occidentaux tels que la France, la Grande-Bretagne ou les États-Unis, la Suisse n'est pas un protagoniste sur la scène politique camerounaise. Et la Suisse est aussi reconnue pour sa discrétion en matière de médiation. Et l'autre principe qu'il faut examiner dans cette affaire, c'est que il y a quand même une partie qui est demanderesse, et ce sont les leaders amazoniens de la diaspora qui ont approché le gouvernement suisse pour pouvoir les mettre en liaison avec les autorités camerounaises. Et pour l'instant, les partis acceptent la Suisse comme médiateur. C'est ce qui est important, parce que dans toute médiation, le principe le plus fondamental, c'est l'acceptation
de la facilitateur, du facilitateur.
Et aujourd'hui, il y a cette
accusation. Il y a eu deux...
Il y a des éléments récents qui remettent en cause, n'est-ce pas, ces préalables-là, notamment les agressions dont le président Biya a été victime à l'hôtel intercontinental lors de son récent séjour.
C'est ça.
Et la question qui se pose ici, c'est est-ce que ces événements n'ont pas été prémédités pour pousser le régime en place à la faute, l'amener à se durcir et à remettre en cause le principe qui avait été acquis avec les autorités helvétiques. Mais les informations les plus récentes montrent bien que les contacts restent en cours et que ces négociations-là sont peut-être beaucoup plus avancées qu'on pourrait le penser.
Mais qui sont les partis, qui sont ceux qui sont invités à participer à ce processus de dialogue initié par la Suisse? Parce qu'on apprend qu'une deuxième réunion préparatoire a été organisée avec des opposants cette semaine en Suisse, en vue, hein, dit-on, de trouver une solution pacifique et durable à cette crise anglophone. Est-ce que le pouvoir est déjà partie prenante de ce discours, de ce dialogue ou pas?
Nous pensons bien que le pouvoir en place est partie prenante de ces discussions-là. Le Cameroun est représenté, que ce soit en Suisse ou ailleurs, en Europe, par des dignes diplomates. Donc, et l'essentiel, peut-être, ce n'est pas de chercher à savoir qui est, mais ce qui est sûr, c'est que le Cameroun est impliqué dans ces discussions-là. Aujourd'hui, on ne cherche pas beaucoup à savoir qui et à cette table de négociation.
Ah oui.
L'idéal pour ceux qui sont en pleine politique politicienne au Cameroun, c'est que on amène tout le monde. Il s'agit bien d'une médiation dans ce qui est considéré comme étant la crise anglophone, notamment avec la guerre au nord-ouest et au sud-ouest.
Alors Denis, avant de laisser la parole à Liliane, en quoi la Suisse pourrait-elle réussir comment la Suisse pourrait réussir à résoudre une crise à laquelle l'ONU elle-même n'est pas parvenue à apporter des solutions depuis plusieurs mois?
Nous parlions tout à l'heure des protagonistes qui sont impliqués dans les événements au Cameroun.
Oui.
Donc, beaucoup de pays, membres notamment du Conseil de sécurité, ne sont pas qualifiés pour entamer une médiation. Donc, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis ne peuvent pas faire de médiation parce que, d'une façon ou d'une autre, ces pays-là sont impliqués dans ce qui est en train de se passer au Cameroun, que ce soit en termes d'histoire de notre pays ou alors pour ceux qui hébergent l'essentiel de ceux qui téléguident les forces en présence sur le terrain. Je veux dire que la guerre qui se passe au nord-ouest et au sud-est du Cameroun est beaucoup plus alimentée à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est-à-dire en réalité que les commanditaires et ceux qui tiennent les piquets de guerre à travers une communication très active, un harcèlement, un cyberharcèlement, ce sont les leaders politiques amazoniens qui sont de façon disparate dans plusieurs pays d'Europe et en Amérique. C'est eux qui tiennent, n'est-ce pas, le discours extrémiste violent et qui, en réalité, tirent les ficelles à travers, je dis notamment, le paiement aux mercenaires nigériens.
Le financement de la sécession. Mais Denis Kouebo, vous avez...
Le financement des mercenaires qui entraînent et combattent avec les forces sécessionnistes sur le terrain. Donc, les acteurs politiques amazoniens de l'extérieur sont beaucoup plus importants et déterminants dans la recherche de la solution que sur le terrain où les groupuscules qui agissent ne sont pas beaucoup coordonnés et n'ont pas de chef assez politique pour pouvoir discuter à une table avec le gouvernement. De toute façon, je crois que le processus est en cours et on verra si les derniers événements de Genève n'ont pas pu infléchir la position des autorités camerounaises qui étaient preneuses des...
Denis, avant de passer la parole à notre invité, vous avez répondu à la question que je voulais vous poser sur la neutralité suisse que certains experts mettaient en cause du fait que le président Biya, d'après ses adversaires, passe beaucoup de temps en Suisse et il possède beaucoup d'intérêts en Suisse. Et vous avez également affirmé que ce sont les leaders de l'Ambazonie, de la diaspora, qui sont demandeur de ce dialogue. Alors, ma question était de savoir, est-ce que vous voulez nous dire que ces ambazoniens de la diaspora qui, d'après vous, financent la rébellion, la sécession sur place, sont en phase avec ceux locaux qui combattent effectivement sur le terrain?
Vous avez sur le terrain des groupuscules dont certains ne savent même pas qui sont les principaux commanditaires. Il y a des groupuscules qui combattent pour combattre. Mais les penseurs, toute la philosophie de la sécession est au sein de cette diaspora-là. Et il faut être très, très prudent pour comprendre ce qui se passe sur le terrain parce que, en fait, cette crise-là est alimentée par un ensemble de discours ambigus. Si vous parlez à un homme politique camerounais, chacun tient un bout d'opinion sur la crise. En réalité, il y en a qui existent à travers cette crise-là. Mais aujourd'hui, il est établi que si les leaders amazoniens de la diaspora parviennent à un accord avec le gouvernement, il y aura cessation des hostilités sur le terrain de façon automatique. Je prends un exemple. Si tous les moniteurs mercenaires nigériens partent du nord-ouest et du sud-ouest, il n'y a plus de guerre. Ça, personne, il y en a qui ont une opinion qui n'est pas assez informée sur la crise, mais pour ceux qui savent exactement comment est-ce que ça s'opère, comment est-ce que ça se recrute, comment est-ce que les munitions circulent entre nos deux pays, j'ai dit le Cameroun et le Nigeria, si les leaders amazoniens décident de s'abstenir...
Ou par exemple, de couper les vivres, selon vous?
Oui, s'ils ne financent plus la crise, il n'y aura que les rébus sur le terrain qui peuvent être assez rapidement maîtrisés par les forces camerounaises. Même si aujourd'hui, on peut penser que la situation est peut-être plus ou moins sous contrôle, toujours est-il que ceux qui sont à l'extérieur détiennent les clés de cette guerre-là.
Merci.
Et le process en cours tend à dire que la sortie de la crise est possible.
Merci. Monsieur Azanaï, alors, oui. Un point de vue général sur cette médiation suisse dans la crise anglophone, mais je voudrais aussi vous demander sur l'accueil plutôt favorable de l'initiative prise par les Suisses, par les États-Unis. On a entendu le secrétaire général adjoint en charge de l'Afrique, Tibor Nagy, saluer cette initiative suisse. On a également entendu le secrétaire général des Nations Unies s'en féliciter. Est-ce que pour vous, c'est un bon départ? Cela donne un grand espoir quant à la réussite de la médiation suisse?
Oui, moi, je voudrais souhaiter quelque chose. Hein. Vous savez, ces problèmes sont des reliques, des ressurgents de problèmes de la colonisation, des influences de l'Occident en Afrique, tout ça là. et qui sont venus se greffer sur les problèmes internes. Et ça devient quelque chose de très complexe, il faut faire très attention. L'idéal est qu'on trouve des solutions de fond tout de suite. Des solutions de fond tout de suite, sinon il y a des opportunistes qui peuvent tirer dans tous les sens.
Mais le soutien international et l'internationalisation, semble-t-il, de la médiation, est-ce que c'est une réelle chance pour la paix? Francis demandait tout à l'heure pourquoi les Suisses réussiraient là où les États-Unis, les Nations Unies semblent avoir échoué.
Vous savez, c'est très simple. Hein? Tout ce qui va se passer au Cameroun aujourd'hui sera internationalisé. Pourquoi? Parce que à cause de l'internationalisation du phénomène du djihadisme et du terrorisme. Donc, on doit surveiller. On doit surveiller pour voir s'il n'y a pas des récupérations qui peuvent aggraver la lutte contre le terrorisme en général. C'est pour ça qu'il faut être très, très attentif et demander au gouvernement camerounais, bon, je ne veux pas te donner des leçons, à tous les protagonistes, de veiller à ce que des solutions de fond puissent être trouvées rapidement et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de vainqueur ni de vaincu. Il y a un problème réel qui se pose au niveau du Cameroun, anglophone et francophone, que tout le monde connaît. Moi, j'ai eu la chance de participer à l'université de Tchang, au Cameroun. Il y a eu un problème, les étudiants chuchotent, tout le monde chuchote. Il y a maintenant aussi un programme de décentralisation. Il faut mettre toutes les cartes sur la table et gérer. Il ne faut pas simplement prendre que les armes peuvent régler un problème de ce genre une fois pour toutes. Donc voilà un peu ce que je dis, parce qu'il y a des médiations de la Suisse, et je ne veux pas mettre... Mais vous savez, la Suisse, c'est la proximité avec le président Paul Biya.
Oui.
Vous savez, la Suisse...
C'est un avantage
le complexe agro.
Justement, c'est un avantage ou un inconvénient? Est-ce que la Suisse serait...
La Suisse est neutre, oui. Mais il y a des business de la Suisse qui sont là.
Il y a des business, oui, justement.
Vous voyez, le deuxième payeur de l'État, le deuxième employeur en dehors de l'État, il faut voir les intérêts. Donc, moi, je dis, ça peut tout peut être une chance, comme tout peut être une malchance. Ça dépend de l'approche volontariste qu'on a, et du patriotisme, et du souci que l'Afrique se relève, et aussi éviter la balkanisation de l'Afrique.
Je prolonge votre propos, candidat Zanaï, pour poser une toute dernière question. Toute dernière question à Denis Kwebo. Justement, question rapide, réponse rapide, je l'espère. Est-ce que la Suisse serait réellement intéressée au dossier camerounais si le président Paul Biya n'avait pas fait de Genève sa résidence secondaire?
Denis, vous êtes là? Allô, Denis?
Denis Kwebo.
Oui.
Vous êtes là?
Vous avez entendu ma question?
Oui, je suis.
Allez-y, Francis.
J'ai dit, voilà, parce que vous savez qu'une partie de l'opinion, vous l'avez fait vous-même, hein, établir un lien entre les séjours réguliers en Suisse de Paul Biya et l'intervention aujourd'hui du gouvernement helvétique. Est-ce que la Suisse serait intéressée au dossier camerounais si le président Paul Biya n'avait pas établi sa résidence secondaire en Suisse, dans ce pays, à Genève?
Non, la vérité, c'est que la Suisse n'a pas décidé de s'intéresser au dossier camerounais. Les leaders amazoniens se sont approchés d'un organisme suisse et gouvernement pour demander la médiation. Donc, ce n'est pas à la demande du gouvernement suisse, ce n'est pas à la demande du gouvernement camerounais que cette affaire...
Mais la Suisse n'a pas refusé, pour autant.
...à la demande des leaders amazoniens. Et la présence récurrente du président de la République du Cameroun en Suisse n'est pas un élément fondamental dans cette médiation-là. Peut-être qu'il y a des pays qui auraient bien voulu peser dans cette crise, parce qu'il s'agit aussi d'une affaire de géopolitique interne du Cameroun, et ça intéresse. Il y a beaucoup de pays occidentaux, la France, nous avons mentionné la Grande-Bretagne, les États-Unis, sont intéressés par l'avenir, n'est-ce pas, de cette partie anglophone du Cameroun, la foire du Cameroun, en tant que pays indépendant depuis 1960. Donc,
merci,
les visites du président en Suisse n'ont rien à voir avec... Là, il faut être sincère, parce que on a vite fait d'amalgame, parce que ce n'est pas vrai que le président Biya va à l'intercontinental pour entrer en contact avec le gouvernement suisse. il va en voyage privé.
Mais il y a des intérêts camerounais en Suisse.
Ça n'a rien à voir avec le gouvernement suisse.
Merci Denis. Il y a beaucoup de questions encore à poser sur cette crise. Malheureusement, le temps ne nous permet pas de le faire. On va parler donc du dernier sujet, la fièvre Ebola, la décision prise par l'Organisation mondiale de la santé de la déclarer urgence de santé publique de portée internationale à RDC. Va-t-elle pousser les populations peut-être jusqu'à la réticente et hostile envers le personnel médical à changer d'attitude. Ebola sévit, rappelons-le, depuis presque un an dans l'est de la RDC. L'alerte a été donnée à la suite du décès du premier cas détecté à Goma, troisième plus grande ville du pays et carrefour des Grands Lacs et à la frontière avec le Rwanda. L'inquiétude des experts de voir la maladie se propager dans d'autres pays est très grande. Monsieur Azanaï, comment appréciez-vous la décision de l'OMS qui a cependant indiqué que les frontières resteront ouvertes pour ne pas pénaliser l'économie?
Je pense que c'est une grande décision. La question de l'Ebola et la question des pandémies en Afrique est une question très grave. Je pense que le cas de l'Ebola est par rapport à ce grand pays et par rapport aussi aux pays limitrophes. L'OMS a agi un peu en retard. Et lorsqu'il y a des personnes qui sont déjà contaminées et qui traversent les frontières, ça complique.
Puisqu'il y a un cas qui avait été détecté déjà en Ouganda, et il a fallu attendre le cas de Goma pour qu'on voit l'OMS prendre cette décision.
Voilà. Oui, et on dit aujourd'hui, d'après les statistiques, qu'il y a au moins 25% qui sont des personnes contaminées qu'on ne retrouve pas. Je pense qu'il faut une urgence, non seulement des Nations Unies, mais une urgence africaine. L'UIA doit prendre à bras le corps ces questions. Les questions de l'UIA ne doivent pas être que des questions politiques, c'est des questions de fond, parce que tout ça, il y a déjà plus de milliers de gens qui sont morts.
Près de 1700. Des
milliers contaminés qui traversent.
En moins d'un an.
Et par rapport aux pratiques rituelles des obsèques, c'est un problème grave. Il faut un zoom de tout le monde sur cette question, à cause de la perméabilité des frontières et aussi aujourd'hui le commerce. Que quelqu'un du Zaïre, de la RDC, qui vienne commercer à Cotonou et qui a déjà pris part à des obsèques et qu'il y ait des gens, ça arrive très rapidement.
Merci beaucoup.
Donc, c'est une urgence.
Une question rapide parce qu'on va écouter bientôt les messages des auditeurs. Candide Azanaï, il y a d'un côté l'OMS qui déclare l'urgence sanitaire mondiale et puis de l'autre côté on voit les autorités congolaises qui continuent de relativiser la situation en affirmant que la situation est sous contrôle. Quelle réflexion vous inspire ce décalage entre l'alerte de l'OMS et la communication gouvernementale congolaise?
Vous savez, c'est difficile pour des acteurs comme moi de parler de gouvernement, parce que nous nous rencontrons et puis nous discutons. Mais vous savez, j'ai dit tout à l'heure, c'est en connaissance de cause que j'ai dit, l'UIA doit s'impliquer au-delà de l'aspect sanitaire technique de l'OMS. Il y a l'aspect politique de chaque pandémie qu'on ignore en Afrique. Et il faut accompagner les aspects techniques, des aspects politiques, pour que le mal soit circonscrit rapidement. Bon, on va faire voir à la déclaration qui peut être une question d'orgueil, de souveraineté, mais qui peut ne pas être une question technique aussi.
En 30 secondes, Denis, comment peut-on venir à bout d'une maladie qui se propage à la vitesse éclair sans collaboration des populations les plus exposées à la maladie là,
rapidement,
à ce
Denis.
Virus?
Je crois qu'il y a beaucoup de problèmes avec beaucoup de communication, entre les administrations et les populations locales dans la plupart des pays touchés par Ebola. Nous avons eu des confrères en Guinée qui ont été tués parce qu'ils accompagnaient une mission médicale. Et lors d'un atelier avec la Fédération africaine des journalistes à Maputo, on avait établi qu'il y a un déficit de communication et peut-être la presse devait beaucoup plus aider aujourd'hui à ramener la sérénité au sein de ces populations victimes-là. Parce qu'il y a pression, beaucoup de croyances liées aux traditions, liées à des rumeurs qui sont colportées ici et là. Si le message ne passe pas bien, c'est que toutes les actions qui sont aujourd'hui mises en œuvre pour aider à éradiquer la maladie vont dans l'eau.
Merci beaucoup, Denis. On va écouter tout de suite les messages de nos auditeurs. C'est urgent. Du message recueilli et livré tout de suite par Didier Ladislas Landau.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter, @débat BBC Africa, et sur notre page Facebook, facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Bénin Mephiskiti salue le geste du président Talon, mais estime que le plus important, c'est l'instauration de la démocratie. Pour notre internaute Dabo Mekalavi au Bénin, ce que vit le pays depuis plusieurs mois est une dictature qui ne dit pas son nom. Eli Essou, de son côté, estime que le dialogue permet la réconciliation des partis en conflit. Il demande donc à chaque parti de mettre de côté ses égaux pour l'avenir de la nation. Didos Didier Afodo demande à notre invité comment il compte faire pour obtenir l'existence juridique de son parti après avoir manqué à l'appel du président Talon et celui du ministre de l'Intérieur. Cameroun Albert Sangaré affirme que la solution à la crise anglophone est la démission du président Paul Biya. Ebola en RDC, Charles Bazema se demande comment on peut lutter efficacement contre Ebola si ceux qui sont censés soigner sont assassinés. Merci à Apache Bayo Mohamed Sanogo et Tamboura Adama qui nous ont rejoints cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/débat BBC Africa-Africa Radio et sur Twitter à @débat BBC Africa. Et d'ici là, bon week-end à tous.
À vous aussi.
Merci Didier. Didier. En 30 secondes, s'il vous plaît, candidat Zanaï, une conclusion générale, c'est la tradition. On arrive à la fin de l'émission.
Et écoutez, vous remercie, et puis voilà, dit qu'au Bénin, rien n'est réglé, il n'y a pas de dialogue, et puis la résistance continue. Nous nous organisons, et puis voilà, il faut que la démocratie soit rétablie, il faut qu'il y ait justice et vérité, il faut que la mémoire des victimes soit réhabilitée.
Et comment feriez-vous pour obtenir l'existence juridique de votre parti?
Mon parti a son existence, c'est une affaire politique. Et je ne veux pas m'engager encore dans des choses-là. Moi, je ne vais pas au ministère. J'ai envoyé une lettre au ministère pour qu'il me délivre mes papiers. S'il ne délivre pas, je ne fais rien du tout. Il n'a qu'à garder le parti. La lutte populaire va rétablir mon parti, va rétablir la démocratie.
Merci.
Merci beaucoup. Monsieur Ebola, c'est dommage qu'il faut soigner et aider les soignants. Il faut protéger les soignants parce que j'ai appris qu'il y a une dame sur ceux qui soignent et qu'il y a des victimes aussi parmi ceux qui soignent. Il faut les protéger, sinon il y aura la débandade générale.
Merci, Kanye Dazanaï.
Pour le Cameroun, il faut éviter la sécession. Voilà, merci.
Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été avec nous. Ancien député à l'Assemblée nationale du Bénin, ancien ministre du Bénin, président du parti Restaurer l'Espoir. Merci à notre confrère Denis Kouébo, journaliste au quotidien Le Jour. L'émission a été réalisée à Dakar par Abdi Diop, régie technique assurée à Paris par Valentin Blanc, chargé de production Didier Ladislas Landau. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs, africaradio.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition avec vous, d'ailleurs, Liliane, sans moi, parce que...
Oui, je suis porteuse d'une mauvaise nouvelle. Voilà, Francis Laloupo qui va prendre quelques semaines de vacances et je vais devoir me débrouiller sans lui. Et puis voilà, merci à vous.
Vous savez le faire, je vous laisse les clés de la maison, bien sûr, Liliane.
Bonnes vacances, Francis Laloupo, portez-vous bien et revenez-nous en très grande forme pour de nouvelles aventures dans le débat BBC Africa, Africa Radio.
En attendant, à bientôt. Bon week-end à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir.
Merci. Au revoir.